Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 20 septembre 2008 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer, le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV.
Suivi de...
Ça c'est du sport, résultat sportif en direct des vestiaires et de l'infirmerie.
Et ensuite...
Eh ben à 15h, normalement cette semaine César Mafaraï, à 17h, Booster FM prend le relais après Radio FMR sur les 89.1 MHz. Bonjour et bienvenue, nous sommes heureux et ravis d'être avec vous. Bonjour Thomas, bonjour du sport.
Salut. Bonjour.
Bon, alors aujourd'hui c'est une spéciale dictature musicale et Daft Punk. Ah, ça fait un peu bizarre. Et ensuite on va parler de Polar et après il y aura la semaine sur CinéFX. Ça, vous êtes content?
Ouais, grave.
Bon, normalement, j'ai dit la semaine dernière, c'est la dernière fois que vous écoutez ce générique.
Bah non.
Voilà, donc la semaine prochaine, ce sera peut-être la dernière, enfin on ne sait pas, on verra. Mais ça va se lancer indépendamment dans pas longtemps. Un petit peu de Daft Punk pour commencer. Un vieux. Extrait de l'album Homeworks, Phoenix. We'll be right back. Daft Punk Phonics dans le supplément week-end, émission numéro 172. Attention à la 178e. Champagne.
On vous expliquera dans 6 émissions.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire en ville. Il y a, on vous en a parlé la semaine dernière, il y a le festival Explosion d'usine qui est donc orienté autour des publications indépendantes sur la bande dessinée, et avec donc il y a des concerts rock, il y a des éditeurs de labels indépendants et plein de choses. Alors, il se trouve que j'espérais qu'il y ait un flyer qui soit présent ici et on ne l'a pas. Et j'étais persuadé d'avoir gardé une copie, donc on n'a plus de flyer, donc je ne saurais vous dire où c'est que ça a lieu. Bah tant pis. Voilà, ça c'est ma faute, c'est intégralement ma faute, c'est dommage, parce que sinon c'est à participation libre et ça a lieu aujourd'hui et demain. Il y a aussi en dédicace, et là on le regrette parce qu'on l'aurait su un petit peu plus tôt, on l'aurait eu en interview, le mail s'est perdu, Bruno, le dessinateur de la parodie sur Michel Vaillant, qui a fait aussi...
Qui a fait le Biotope.
Biotope, voilà. Et plein de bandes dessinées. Sa nouvelle...
Junk.
Junk, exact. Et une autre sur Inner City Blues. Commando Colonial, Opération Ironclad, vient de sortir dans la collection Poisson Pilote chez Dargaud. Donc le premier tome, il le dédicace aujourd'hui à 14h à Gilbert Librairie, 3 rue du Thor. Ah, franchement, on est vraiment dégoûté. On aurait aimé l'interviewer et le recevoir, ben ce n'est que partie remise. Et il y a un dernier événement qui est à signaler, qui a lieu aujourd'hui, du moins pour ceux qui nous écoutent en FM. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast, mais néanmoins ils peuvent participer, ceux qui sont en podcast sur le net. Il y a un lâcher massif de livres autour autour des jardins Compense Caffarelli à 16h pile. Il s'agit bien évidemment du book crossing. Le book crossing, c'est le principe, c'est on lâche des bouquins dans la rue. Des fois vous avez peut-être tombé sur une librairie, sur un café, dans un bar, dans un hall de gare ou bien un arrêt de bus sur un bouquin où il y a marqué dessus « Je ne suis pas perdu ». Il y a un numéro d'identifiant dessus, ça s'appelle du book crossing, c'est-à-dire on va lâcher des bouquins. Et si vous allez sur Internet, vous donnez la référence du bouquin que vous avez trouvé, et où c'est que vous l'avez trouvé. Vous allez voir que le bouquin va énormément voyager, qu'il y a des gens qui vont dire ce qu'ils ont pensé du bouquin et tout ça. C'est plutôt intéressant. Il y a 600 livres, c'est un très très gros lâcher qui a lieu tout à l'heure. Puisque c'est la réunion annuelle des bookcrossers de France. Le précédent était à Strasbourg, le prochain a lieu à Paris. Donc voilà, donc c'est un événement dont la CBD a plus ou moins promu au tout début en 2002, 2003, 2004. Enfin, moi j'en parle depuis 99. Donc c'est pas inintéressant.
Si c'est pas indiscret, quels sont les livres que tu y as laissés?
Alors, les livres que je vais y laisser là maintenant, parce que les autres, il y a eu des bouquins, Librio, des trucs comme ça. Il y a Say Hello to Blackjack. Oh. Il y a l'ado des Nihilbug, la version reprise par
Nibelungen,
pardon, la version redessinée par le créateur d'Albator,
par Matsumoto.
Et maintenant je crois qu'en fait il y en a deux de cette série, donc voilà, on va les lâcher. Enflammé aussi va en lâcher quelques-uns,
donc du manga.
Pour moi, il y a du manga. Pour elle, il y a de la littérature classique. Je crois qu'il y a Le Parfum.
Ah.
Donc, qu'un temps aussi, j'avais relâché. Donc, ça fait un peu bizarre. Donc, voilà. Sans compter que même si on n'a pas lancé la nouvelle émission, on fera gagner un bouquin tout à l'heure.
Ah oui, restez avec nous.
Donc, voilà. J'ai pas de son, c'est normal ?
Non.
Depuis le début. Ah oui, d'accord, ok. Il y a un gros moment de blanc dans le morceau, c'est pour ça. Et maintenant, une interruption musicale. Que dalle, on est à radio éphémère, ça ne marche pas, on a l'habitude. Donc pas de panique, on est en train de faire ça proprement. On va parler de dictature musicale, de musique, je vais dire, très grand public, voire trop grand public. Vous savez, la musique insinueuse qui rentre dans la tête et qui n'en sort pas, alors que c'est une grosse merde. Ben voilà, je pensais à ça. Oui, parce qu'étonnamment, c'est de la musique. Et même, ça fait partie de la culture. Ouais, et voilà. Au début étaient les vendeurs de partitions, qui ensuite vendirent des enregistrements qu'on appela disques. Mais comme ils craignaient que les disques se vendirent moins, ils voulurent interdire successivement la radio. Ah non, pas le droit de passer des disques, ça c'était dans les années 50. Le magnétophone, ah non, on peut copier les disques sur les cassettes, ça c'était dans les années 70. Le magnétoscope, ah non, on peut enregistrer des films sur le magnétoscope, ça c'était dans les années 70. Et le CD gravable, ça c'était au début des années 90. Puis arriva Internet. L'échange de fichiers informatiques devient de plus en plus gros et il était possible d'échanger de la musique par album complet. C'est-à-dire que sans payer, les gens pouvaient pirater des albums et des discographies entières d'artistes comme King K. Bon, King K en même temps ça va très vite. Et alors, c'est alors que le disque se vendit de moins en moins. Et devant leur baisse de revenus, les majors tentèrent plusieurs initiatives qui finalement furent toutes plus malheureuses les unes que les autres. D'abord, ils sortirent des compilations et des reprises à outrance. Bon, le disque était déjà amorti pour les avoir déjà vus dans des sitcoms, un peu partout. Enfin bon, le disque était déjà amorti, mais ça se vend mal. Créer de nouveaux artistes hyper consensuels qu'on aimerait pour les avoir vus dans une sitcom à la télé, plutôt que pour leur qualité musicale. Mais la Star Academy, bah, ça tient difficilement 3 mois dans les bacs. Réduire l'offre musicale. C'est vrai quoi, il y en a marre de tous ces artistes qui sortent. Si on avait que 10 disques à gérer par an, ce serait mieux. Mais là encore, ça réduit le nombre de disques vendus. Verrouiller les CD, mettre des messages d'avertissement sur les DVD. Pirater, c'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Insultant au passage leurs clients, ça n'aide pas franchement à relancer la vente de disques. Vendre des baladeurs verrouillés, un seul magasin de disques. Hélas, pour ces majors-là, cela crée un monopole qui n'était pas le leur. Et là, évidemment, c'est pas intéressant. Lier l'accès à la musique à un abonnement de portable ou à une carte de crédit. Oui, genre Société G ou Universal M, mais ça n'aide pas franchement à vendre des disques et ça rendait la musique encore plus immatérielle, donc ça déstressait le piratage en fait. Créer une politique de la terreur, Eloi Elsen, DADVSI, Adopi, ce qui continuait à insulter les clients et autoriser les majors à faire elles-mêmes la police. Rester l'arme ultime. 1. Interdire toute concurrence. 2. Se mettre à la place de l'État. Heureusement, ceci n'est que fiction. 20 ans après. Thomas ?
Oui.
La BD.
Ah oui, pardon.
Ah oh, putain.
On parlait de. Ouais, donc, à propos de The Baser, c'est ça ? Donc, en 2007, comme vous le savez tous, les Français élisent un président un peu soucieux des libertés individuelles. Et là. C'est l'enchaînement, le drame. Seule la musique de divertissement est autorisée. L'éducation poussée n'est réservée qu'aux garçons. Et les filles ne sont tout juste bonnes qu'à se faire refaire les seins.
Ou à lire l'astrologie.
ou à lire l'astrologie. Et justement,
par le téléachat.
Et comme il n'y a plus que la musique divertissante qui est autorisée, les artistes à message sont devenus des raconteurs et ont développé un certain, on va dire, un certain don mystérieux pour ensorceler les foules. Mais ça, nous vous laissons lire la bande dessinée. Alors, c'est une BD au format et au style manga que Raf Chan, qui avait un passé dans le fanzina, donc s'est approprié les codes du manga pour en faire quelque chose d'assez personnel, un peu torturé, enfin au trait un petit peu de traviole et très revisité à la sauce française, et ça donne un cocktail détonnant, une BD qui se moque également de ces petits dessinateurs français qui veulent absolument faire du manga et qui recopient Dragon Ball sur les murs. En cela, le personnage de Josh, le protagoniste de l'histoire, est assez rigolo.
Raph, jeune dessinatrice, on l'a rencontrée lors de Japan Expo en juillet dernier à Paris, et voici son interview. Voilà.
Raph, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous connaît très peu, présentez-vous, quel a été votre parcours ?
Je m'appelle Raphaël, j'ai 25 ans, j'ai fait des études de communication visuelle, donc du graphisme, de la publicité. Et une fois le diplôme en poche, je suis allée voir Ankama avec mon projet de BD. Et voilà.
Direct.
Dès que j'ai eu assez de maturité pour me lancer dans la bande dessinée, je me suis lancée tout de suite.
Pas eu de fanzina auparavant, d'expérience de ce genre, ou un forum de BD, de dessinateurs, un truc comme ça ?
Si, on avait créé des forums de dessinateurs avec des amis depuis très longtemps sur internet, qu'on a un peu alimenté avec des petits concours, des choses comme ça. Et c'est surtout le fanzina qui nous a tous motivés. On s'est réunis entre amis pour créer le collectif Benbao, et on a fait pendant 6-7 ans du fanzina intensivement, tous ensemble. C'était plus le côté grosse rigolade entre amis qui nous intéressait plutôt que vraiment l'entraînement à la bande dessinée en soi, donc... Ça ne nous prédestinait pas à faire de la bande dessinée forcément, mais moi j'y ai pris goût.
Et Ankama est le premier éditeur que vous avez démarché, ou vous avez tâté ailleurs aussi ?
J'ai tâté ailleurs chez un autre éditeur de manga aussi, qui n'a pas été intéressé, mais plus pour des raisons commerciales j'imagine. Alors qu'Ankama ont été très enthousiastes, donc c'était beaucoup plus intéressant pour moi.
Quelle technique tu utilises pour ta BD ? Est-ce que tu es encore dans la technique traditionnelle papier, encre avec une feuille physique, ou tu utilises d'autres logiciels comme Photoshop ou Manga Studio ?
Justement, je mélange les deux. Je continue à dessiner sur des feuilles papier technique. Je dessine en A3 pour avoir un dessin assez fin quand on réduit en A6 au final. A5, je sais plus, manga.
A5.
A5, oui, pardon.
Non, A6, pardon, tu avais raison.
C'est ça, ouais. Je continue à ancrer à la plume aussi, parce que j'aime beaucoup le fait de dessiner à la plume, c'est très très agréable. Enfin, j'ancre à la plume, et après je scanne sous Photoshop et je mets tous les niveaux de gris, donc tout ce qui est différentes ombres ou couleurs en gris, et je remplis les noirs aussi avec Photoshop, mais ça se limite à ça.
Alors Joshua, qui se borne à imiter les mangas avec ses dessins assez moisis, c'est un autoportrait pas très flatteur en fait.
Oui, en quelque sorte c'est une autocritique un petit peu, mais ceci dit, j'espère que je dessine un peu mieux que du sous-DBZ. C'était plutôt genre un cliché assez connu des collégiens. Je me rappelle que collège, j'avais tous mes copains qui dessinaient du Dragon Ball Z, et je pense que tout le monde a vécu ça, donc c'est assez identificatoire. Et...
Non, c'est pas notre génération pour ça.
Du Cobra peut-être.
C'est plutôt X-Men, nous.
Alors la BD est une déclaration de guerre à la musique jetable. En même temps, comme tout le monde attaque la Starac, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette démarche-là, puisque tout le monde le fait en fait ?
Justement, je voulais pas attaquer la Starac en soi, parce que ça n'a aucun intérêt à mon avis, ni de taper sur un chanteur en particulier. C'est vrai qu'on pourrait facilement taper sur des genres, je sais pas, Tokyo Hotel ou des trucs comme ça, mais les gens qui aiment ça pour leurs raisons, et ça n'a aucun intérêt de taper précisément sur eux. Ce que je voulais, c'était vraiment parler d'un système global qui part en couille, littéralement, avec la musique qui est complètement passée au pilon par les grosses industries, et tous les petits groupes qui existent en France, qui ont beaucoup de talent et d'énergie, qui sont complètement mis à l'écart et qui sont destinés à être sur le web, ce qui est déjà bien pour eux, mais qui n'est pas la promotion qu'ils mériteraient d'avoir, quoi.
La copine Nana, c'est une Cindy Sander avant l'heure, en fait.
Exactement. J'ai connu Cindy Sander après coup, mais effectivement, ça collait très très bien.
Alors pourquoi précisément avoir repris le titre des Pixies ?
Je sais pas si la traduction est vraiment exacte, mais moi, ce que j'en vois comme traduction, c'est celui qui détruit les bases d'Ebazer. Donc je trouvais que c'était intéressant que le héros détruise toutes les bases de la société qui est complètement pervertie pour essayer de reconstruire un nouveau monde idéal. Donc ça reste une utopie, mais c'est ce qui motive le héros, en tout cas, c'est son énergie.
D'accord. Alors les musiciens avec des pouvoirs, on avait déjà vu ça avant, et Jem et les hologrammes, est-ce que ça a compté ?
Ah oui, une grosse influence, et les hologrammes. Dans toutes les étoiles, là, les Misfits. Non, en fait, les pouvoirs, c'est vraiment un truc accessoire dans la BD, mais c'était pour donner un côté un peu dynamique et donner une certaine énergie au récit qui, sinon, aurait été beaucoup trop plombé par le côté message. Donc, je voulais qu'il y ait une forme assez populaire et un fond avec un petit message quand même pour qu'il y ait un intérêt au truc.
Oui, mais donner un message derrière, un message anarchique en disant « Oui, non, mais il y a société meilleure, utopie et tout le reste ». C'est un peu convenu finalement, il y en a plein qui ont fait ça. Est-ce que ça amène franchement quelque chose à ton sens?
Je sais pas si ça amène quelque chose, je ne pense pas révolutionner les états d'esprit avec. Mais pour moi l'intérêt c'est qu'il y ait plein de gens partout en France qui peut-être se disent quelque chose qui va pas dans notre société et qui en voyant que des personnes font des BD comme ça aussi doivent se dire je ne suis pas seule. Et pour moi c'est le plus important déjà, c'est que les gens qui se disent qu'il y a un truc qui va pas sache qu'on peut en réfléchissant tous ensemble essayer de trouver une solution. Après on n'est pas des politiciens, c'est sûr quoi. Mais c'est le rôle des artistes justement d'essayer d'apporter des possibilités, même si elles sont utopistes, au moins des recommandations, des conseils de ce qu'on pourrait faire pour améliorer la société quoi.
Alors The Bazer a été publié sous le label 619. Est-ce qu'il y a des projets avec toi par rapport à ce label ou plus en Kama en général?
Pour l'instant, je reste sur The Bazer. Je voudrais finir bien à fond toute la BD sans trop m'éparpiller. Mais j'aimerais bien après, effectivement, continuer à bosser avec Ankama sur plusieurs projets différents. Vu qu'ils sont super multimédia, ils touchent vraiment à tout, au web, dessin animé et tout.
Alors, tu parlais de t'éparpiller justement. The Bazer, c'est énormément de styles graphiques assez différents. Tu adaptes d'ailleurs énormément en fonction du niveau de lecture que tu souhaites par rapport au sujet, le mode graphique. Il y a énormément d'influence. Est-ce que après The Bazer, tu penses peut-être te limiter à une grammaire graphique un peu plus restreinte?
Je suis pas sûre, en fait c'est pas du tout réfléchi tout ça, c'est vraiment c'est mon style, c'est instinctif, donc j'ai pas vraiment trop pensé. Après c'est vrai que selon le ton de la scène ou de la BD, on prend des graphismes un peu différents, plus matures, plus rigolos avec un peu japonais manga. Mais non, c'est pas du tout réfléchi. Je pense que j'ai continué à évoluer, mais c'est pas du tout quelque chose de calculé, malheureusement.
Oui, et puis Run, en directeur de collection, lui, il a 40 styles différents par page, donc...
Exactement, c'est la marque des collections de 819.
Ben, merci beaucoup.
Ben, merci à vous, bonne lecture à tous. Enfin, des questions intéressantes, merci.
Oui, c'est pas du cirage de pompe, c'est spontané. Je crois que on a des confrères qui vont en prendre plein la gueule. Donc Raph que l'on a interviewé donc en juillet dernier, lors de Japan Expo, qui est quelqu'un vous avez vu de très 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 dynamique et adorable. Et très spontané. Après, graphiquement, c'est extrêmement dynamique, extrêmement distordu. Et elle a un univers à elle qui est très complet. Et qui n'est pas prêt d'évoluer, je pense, dans le sens consensuel. Oui, on est loin des séries mainstream manga.
Oui, c'est très rock'n'roll. Ça rappelle. Enfin, c'est dans un autre style, bien sûr, mais ça rappelle un petit peu la Sentai School avec les petites références à la culture manga qui s'adresse vraiment à notre génération qui a été biberonnée justement avec des BZ et qui s'est bornée pendant les heures d'études au collège à imiter ces styles là. Après c'est très amusant de retrouver ça dans un manga à la française dans la joie, la bonne humeur, l'humour bien gras ou enfin en tout cas on rigole bien devant cette BD. C'est en tout cas c'est bien fun et vu comment se termine le premier tome, on peut espérer beaucoup de bonnes heures de lecture pour les suivants.
Alors est-ce que taper pour la Starac est consensuel?
Taper sur la Starac est consensuel?
Ouais.
Je dirais oui.
Alors est-ce que ça a été fait en bande dessinée?
Aha.
Pas mal, mais oui. Qui est là pour les défendre en bande dessinée? Ces messieurs, ces dames qui n'ont rien demandé sinon qu'à être très connus et à se rendre ridicules sur TF1 ou sur M6 et à montrer le puissant fond de leur vie quotidienne sur lequel ils n'ont pas de culture, peu d'éducation et finalement rien à dire. Eh ben, il y en a des bandes dessinées de ce sujet, s'il vous plaît. Alors, les bandes dessinées sur les télé-réalités, ça a commencé par Starac. Je ne déconne pas. C'est Soleil qui avait lancé ça. Deux albums produits par Studio D. Sous licence TF1 et New Prod. Alors, épisode 1, La Guéguerre des Étoiles. Sorti en décembre 2004. Et épisode 2, La Starac contre-attaque. Novembre 2005. C'est intéressant les dates parce que cela signifie deux choses. Primo, que la Starac venait à peine de se terminer quand ils ont sorti les bouquins. Mais qu'ils ont produit les albums au moment où les mecs sont rentrés. Donc, c'est un, je sais pas si vous voyez, 48 planches de BD produit en moins de 3 mois. La masse de boulot que c'est et surtout le torchage que c'est.
Ah ben, ça fait c'est un pas petit peu la peur. BD d'auteur.
Ça, si, enfin, oui, en tout cas, les auteurs se réfugient sous le nom d'un studio, ce qui veut bien dire qu'ils ont eu un petit peu honte. À côté de cela. Et en général, ils étaient juste à temps pour le festival d'Angoulême pour être sur le stand Soleil.
Ce pour qui nous abrutir les oreilles avec
ce
ça.
Ce qui en soi n'est pas trop gênant parce qu'ils sont sur le stand Soleil qui a sa tente à part au festival d'Angoulême. Le problème, c'est que simultanément à Soleil, il y a eu un autre petit éditeur qui s'appelle Teloma qui a eu la même idée et cette même idée, c'est sur les L5, scénario de Quentin Suger et dessin de Jean-Philippe Pogu.
Toutes les femmes de ta vie.
Sauf que lui, il a pris un petit peu le temps de faire un album et puisqu'il a mis, il y a eu 6 mois de pré-production et il y a comment dire. Donc le premier tome s'appelle Histoire d'L5. Il y a pas eu de second tome. Ou en couverture, c'est les aventures sous-marines des L5. On se demande quel est le sujet, quel est le rapport, mais surtout le plus drôle dans l'affaire, c'est que quand il les a fait venir à Angoulême pour présenter l'album, il était dans un angle. Il était face à 2-3 éditeurs, petits éditeurs comme lui, qui louaient 3 mètres carrés très cher. Et il a complètement phagocyté par la présence des artiste entre guillemets, enfin quoi que le L5 c'était peut-être les moins pires.
Ouais, c'est ça, hein. C'était pas si terrible.
Mais c'était terrible quand même par la présence de fans qu'il y avait autour, ce qui fait qu'il y a eu des stands qui ont été complètement inondés par ces fans et qui n'ont pas pu travailler le vendredi et le samedi. C'est-à-dire, ça a été ratiboisé. Moi, je sais, j'étais avec Albert Algou qui à l'époque était rédacteur en chef de Fluide Glacial sur le stand Fluide qui leur tournait dos, donc on avait une vue au-dessus et c'était impressionnant, c'était bondé. C'était insupportable. Le terme d'Albert Algou, il a eu un mot pour rire qui était assez rigolo, qui disait « Toutes ces jeunes filles en fleurs qui n'achètent pas des albums fluides, c'est bien dommage. » Le problème, c'est que les éditeurs qui étaient autour du stand Teloma n'ont pas du tout apprécié ne sont pas revenus les années suivantes. D'ailleurs, Teloma non plus n'est pas revenu les années suivantes. Donc voilà, parce que ils ont perdu un investissement qui pourrait représenter 6 mois de budget pour rien, uniquement pour être à côté de filles en fleurs qui n'avaient rien à foutre de leur stand. Bref, pour eux ça a été un échec total. Il y a eu une troisième série sur la bande dessinée consacrée à Jean-Pascal de la Star Academy de Love Story.
Non, Jean-Pascal, c'est la Starac.
C'était la Starac.
Oui, oui.
C'était la première saison, alors.
Oui, oui. C'est rigolo, comme quoi, Jean-Pascal, tu as du mal à mettre l'enchanteur dessus. Mais bon.
On l'a complètement oublié. À tel point qu'on ne le trouve même pas dans les archives. C'est-à-dire que j'ai vu passer le dossier de presse, il a été annoncé à une certaine date, mais on ne sait pas si le bouquin a été publié ou non. C'est-à-dire que Jean-Pascal était déjà un épiphénomène qui commençait et qui était sérieusement sur le déclin au moment où la bande dessinée était mise en production. On ne sait pas s'ils l'ont sorti effectivement ou non.
Tu exagères, il a eu son heure de gloire en chroniqueur chez Julien Courbet, non?
C'était après.
Ah oui.
Oui, et puis il fait l'acteur hein, maintenant.
Ah oui, pour TF1.
Oui, il fait l'acteur, comme
ouais,
tu
ouais,
dis.
Oui, chez TF1, ouais.
Bref, tout ça pour dire, ça a été un échec total de ce côté-là. Bref. Y a-t-il eu une sous-culture qui a eu lieu? Ben oui. Et il n'y a pas de quoi s'en vanter.
Mais avant la télé-réalité, il y avait les boys bands. Est-ce qu'il y a des boys bands en BD?
Oui. Il y a eu. Les To Be Free. Les To Be Free ont été en bande dessinée. Ils ont eu aussi leur sitcom pour être libre. Il y a eu.
Il y a eu Kiss aussi.
Il y a eu les Words Apart. Ouais, mais Kiss, c'est un peu les ancêtres des boys bands.
Ah oui.
JB a rattrapé en catastrophe. Bonjour. A rattrapé en catastrophe l'échec total qui se prononçait parce qu'il était censé avoir préparé le truc. Et finalement, il a le morceau.
Bah oui, évidemment.
Non, c'était pas évident.
Tu me l'as rappelé ce matin, donc j'y ai pensé.
JB, tu brilles.
Oui.
Tu as couru.
J'aimerais bien qu'ils comprennent ce que c'est que d'être en phase des clients. Je suis pas devant un ordinateur, moi, en train de
décoder. Non, mais ça fait depuis 2 semaines qu'on la prépare, cette spéciale. T'étais censé avoir fait un. Mais que sont devenues ces grandes stars?
Oui, j'ai tenu même pas 3 minutes hier soir pour voir un certain Gauthier. Et puis j'ai fait stop, là, ça suffit.
Ah, mais
et
tu es pas au dernier moment.
Ah, mais attention, 3 minutes, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà, c'était franchement trop. Et la miss a rezappé sur NCIS. J'ai fait ok, d'accord, j'ai compris.
Il est allé lire Télérama.
Alors,
non, tout ce qu'on déteste dans cette émission, JB le fait.
Alors qu'il y avait Tour Food.
Oui, c'est oui, la saison 2.
J'ai qu'une seule télé, hein. Faut sur savoir.
T'as un PC.
Mais tu prépares.
T'es chez Free.
Oui, mais non.
T'as le multi.
Non,
t'as...
pas. J'ai pas. Je suis allé faire autre chose.
Mais tu prépares. Bref,
JB ne sait pas servir d'un ordi.
Tu prépares tes émissions au dernier moment, toi.
T'es tellement claqué, t'as même plus envie là. Tu auras même pas un film. Tu ne fais rien.
On peut arrêter de le chambrer et passer donc le The Baser des Pixies.
Ça serait bien. Sinon, je m'énerve.
Ouais, c'était les Big Z's, Super Nerd Giant, un truc et Super Jones, avec The Buzzer. J'avais oublié d'annoncer, j'avais annoncé Explosion d'usine, et en fait j'ai le flyer, mais sur le côté je peux pas tirer le micro, et j'ai l'affiche devant moi. Donc, Explosion d'usine, la 7ème édition, a lieu au pavillon Sauvage. Sauvage Chaussas, excusez-moi, et c'est donc rue Jean Dagneau, c'est tout à l'heure à partir de 14h. En simultané, il y aura Bruno en dédicace à la librairie Gibert, 3 rue du Thor pour Commando Colonial, Opération Ironclade. Et à 16h, il y aura un lâcher massif de livres, donc c'est au jardin qu'on pense qu'à faire Ellie. Côté bande dessinée qui pue, puisqu'on y était encore, je tiens à signaler que Delcourt baisse un petit peu dans mon estime. Puisqu'ils sortent une bande dessinée, Bienvenue chez les Ch'tis, d'après le film de Danny Boone, adapté par Pierre Weiss et Frédéric Quacou. Bon, soit. Seulement, on peut dire que c'est que pour le pognon. Ben non, c'est pas que pour le pognon, puisque une partie, les bénéfices, pardon, c'est pas une partie, c'est les bénéfices des ventes de l'album recueillis par la production. Ah, recueillis par la production, d'accord. Donc c'est la part qui revient au producteur du film. Seront reversés à des associations caritatives du Nord-Pas-de-Calais, à savoir Action contre la faim, Cœur de Fondeur, la Ferme du Nord, Village d'Enfants, les Restos du Cœur, la Fondation Abbé Pierre, Action éducative, Secours populaire français. Donc voilà. C'est en librairie le 29 octobre, c'est pas encore sorti. En simultané, un peu avant, sortira Une enfance ch'ti, Jean-Luc Loyer. Jean-Luc Loyer, ça tombe bien puisqu'il est originaire de Hénin-Beaumont, mais donc il va profiter un petit peu du créneau, même s'il a déjà un petit peu raconté, plus ou moins. Et il y aura aussi Les Blagues Ch'ti de Jean-Luc Loyer, ça c'est du 46 planches, couleur, format album, etc.
Biloute.
Biloute, voilà.
C'est aussi chez Delcourt, ça
hein. C'est chez Delcourt, toujours, oui, du sport.
Alors faut quand même se méfier quand vous entendez les bénéfices des ventes seront reversés.
Oui, c'est ce que
tout,
j'ai dit, oui.
Parce qu'il suffit de monter les coûts de production, les coûts de fabrication et tout le reste pour s'en foutre un petit peu
c'est
dans la
production,
poche.
C'est la part de la production du film,
en
apparemment.
Temps, soyons alors, honnêtes, donc, c'est un commerce. Il faut bien qu'ils puissent gagner un petit peu d'argent pour pouvoir.
Ouais, et puis le Nord est une région sinistrée. La Redoute ne vend plus.
Entre autres.
En introduction musicale, s'il vous plaît. Deuxième interruption.
Météorologique,
le Hypnolove, I was made for loving you. C'est une reprise, devinez laquelle. Aha. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. At your feet, 'cause girl, I was made for you, and girl, you were made for me. Hypnolove, I was made for loving you. Hypnolove est un groupe toulousain, dans ouais, campus
c'est le,
et l'éphémère.
Le groupe préféré de DJ Tro.
Ah, il rêvait au bout d'un moment de faire les chœurs dans ce groupe.
C'est qui?
Et c'est JB qui a trouvé qui? De qui c'est la reprise?
Non, c'est pas moi qui l'ai trouvé,
C'est Duce qui a...
Et c'est du sport qui gagne le filet garni. Non, la BD, on l'a fait gagner tout à l'heure. En attendant, mesdames et messieurs...
J'ai aucun mérite, hein, c'est le morceau qui est sorti l'année où j'étais à l'armée, alors...
Tu me files un morceau de... The
audience is listening in THX mono au surround. Comment ça, c'est pas une sortie en salle?
Non, mais moi, ce qui me fait rire, c'est que tu te plantes dans ton propre planning, puisque avant il y avait.
Non, mais t'as remarqué le conducteur, c'est n'importe quoi. Hein,
le
c'est
conducteur, on chroniquait pas un album de Boulet avant?
Ouais, mais on le fera après.
Non, c'est n'importe quoi là.
Bon, si tu veux, hein. Ouais, il se rattrape comme il peut. Ouais.
Aux branches!
Donc, allez, on parle du film alors. Aujourd'hui, il s'agit d'un DVD qui s'appelle Daft Punk's Electroma. C'est un film des Daft Punk, donc Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo. Yes! En une fois. Édité en DVD chez Wildside Video. Et donc, attention, il faut suivre la trame et la suivante. C'est assez compliqué. Deux cyborgs errent en plein désert. Voilà. Donc, c'est ça pendant 1h10, à peu près 1h05. Pour les détracteurs, c'est un trip vachement... Enfin, c'est arty, mégalo, prétentieux, un peu qui sort sur la mouvance, post-Gus Van Sant, un peu, tu vois, avec un peu de vide, et puis c'est pour plaire un peu aux bobos, tu vois. Alors après, les fans diront l'inverse, hein, c'est plutôt un film vachement hypnotique, assez fascinant. En fait, il se démerde vachement bien, t'as des beaux effets, des beaux ralentis, c'est esthétisant, c'est de l'art, quoi, c'est sympa. Bon, moi j'aime bien les films radicaux, donc finalement je m'attendais au pire. Alors j'avais testé le DVD avant, je me suis dit bon allez on va le regarder un peu en accéléré les premières minutes pour voir si ça vaut le coup, est-ce qu'il faut être en forme, être fatigué devant. Alors oula, qu'est-ce que c'est que ce truc, il se passe rien, bon on va reporter. Hein. Et alors hier je l'ai regardé et finalement ça passe très bien, c'est-à-dire que si t'es assez réceptif, si t'es pas trop crevé, ça va, tu t'endors pas, tu suis, c'est bien.
C'est genre Jerry version électro, quoi.
C'est ça, sauf que j'ai pas vu Jerry, j'ai pas voulu trop m'avancer là-dessus, mais c'est vrai que j'ai vu ce parallèle sur internet en préparant le truc. Mais c'est vrai qu'en connaissant un peu le concept de Jerry, ça a l'air d'être ça aussi. Il a été vachement comparé au film de Vincent Gallo, Buffalo 66, ouais, aussi, okay. Enfin, tout le road movie un peu introspectif.
Ça finit mal, hein, aussi. Hein.
Buffalo 66
Jerry, ça finit.
Ah, Jerry, ouais, non, c'est pas. Ah, t'as spoilé Jerry! Ah, en tatoua!
Je vous dirai pas comment ça fait, comment.
D'accord. Moi, je te dirai pas si le film Electroma a fini de la sorte. Qu'est-ce qui se passe dans le film? Donc, c'est deux cyborgs donc, qui errent dans le désert. Donc, ils marchent, ils conduisent une voiture, ils vont dans une ville, un petit patelin. Et à un moment donné, donc, on voit aussi l'influence de Kubrick, puisqu'ils sont dans un espèce de labo où ils essaient de. Alors là, ça va un peu spoiler, mais je vais pas trop m'attarder dessus. Donc, disons qu'il y a un truc qui va se passer sur leur gueule et ça va précipiter justement, va faire basculer le film dans un autre trip dans la deuxième partie. Donc voilà, il faut apprécier un film où il y a deux gars qui ressemblent à des Daft Punk qui marchent. C'est le concept, hein. Après, c'est super joli. Il y a des belles compositions. On a pas mal de plans assez métaphoriques. On en aurait aimé plus. Par exemple, il y a des plans de désert où à un moment donné, on voit une dune. On voit un sexe féminin dans la dune avec les herbes placées pile au endroit où il faut, etc. Les effets spéciaux, ils ont été confiés à la société Méthode, donc bon, c'est beau ralenti, on dirait une installation dans une exposition en fait. Faut aimer. Voilà. Electroma des Daft Punk, alors par contre, si vous achetez l'édition DVD de Wildside, bon, c'est anémique, hein, au niveau bonus.
C'est White Bunch.
On va sortir les bonus. Un poster.
Ah non, c'est Wildside, effectivement.
un poster, c'est voilà, c'est tout, hein, puisque dans les bonus dans le DVD, il y a l'abondance du film plus des liens internet et des économiseurs d'écran. Bon après le packaging est joli, hein, c'est du métallique, voilà. Le film, on pourrait parler de la BO, bon c'est les Daft Punk, donc contrairement à Interstellar 5555, puisque c'était la compilation de clips qui était sortie aussi, qui était complémentaire de l'album Discovery, bon ben celui-là, c'est pas, il n'est pas lié à un album, même s'il fait suite à Human After All. Donc dedans, il y a aussi des compositions de Sébastien Tellier. Alors attends, je crois que je l'ai marqué quelque part.
Sébastien Tellier.
Voilà, Sébastien Tellier, Curtis Mayfield, Brian Eno, donc bon, il y a quand même du lourd. Ça va de la musique un peu anxiogène qu'on pouvait retrouver chez Gaspard Noé, Irréversible, c'est pas étonnant puisque c'était Thomas Mangalter qui avait fait la BO. On peut avoir aussi la musique plus dansante avec des voix dessus, bon, voilà. Donc il s'agit d'un, on va dire, plutôt un moyen métrage, hein, à peu près 1h05, Electroma de Daft Punk. Faut aimer les films radicaux et un peu expérimentaux arty, voilà. Si vous aimez pas ce genre, ben, passez votre chemin, vous n'aurez rien à y gagner. Electroma des Daft Punk, sorti en DVD depuis il y a que mois déjà, c'était l'occasion, puisque à l'occasion de cette émission musicale et Daft Punk et télé-réalité.
Sachant que le film est sorti dans une seule salle, et il est resté pendant un an dans cette salle, c'est tout. Et voilà, c'était le concept des Daft Punk, c'est que leur film, soit, oui, il y a une exploitation en salle, mais ultra pointu et puis point barre. Et si vous n'êtes pas parisien, et ben bien fait pour vous.
C'est comme le Rocky Horror Picture Show ou Orange Mécanique.
Ah non, ça c'est différent. Là, c'était une volonté depuis le départ de n'avoir qu'une seule pellicule, ça n'a rien à voir. Alors j'allais être méchant, mais oui, c'est du Jean-Michel Jarre derrière.
J'allais dire.
Qui c'est qui veut le DVD?
Non.
Non.
Oh, j'ai encore perdu noir. Alors, à regarder.
Lecteur de Télérama, non.
Non, mais...
Dus
oui. Non.
T'es pas là dans une semaine, donc...
Bon, allez, je le prends. Ça dure une heure, ça sera
facile. On disait tout à l'heure que Delcourt baissait dans notre estime. Heureusement, il va remonter.
Ouais.
Avec un dessinateur qui, à l'origine, n'est pas de chez Delcourt, mais, enfin, à l'origine, qui est chez Glénat, même s'il a fait à côté, chez La Boîte à Bulles, une excellente, il a scénarisé une excellente série. Et puis voilà!
Et oui, c'est partiellement faux ce qu'on dit, puisque maintenant il est aussi chez Delcourt pour Donjon Zénith.
Et oui. Il s'est gagné!
Bravo!
T'as lu le conducteur, tricheur.
Non, c'est que je vous ai entendu en parler tout à l'heure, et puis j'ai tiqué Donjon Zénith.
Boulet, ah. Note.
Voilà, note, tome 1, Born to be a Larve, qui regroupe les notes de son blog bouletcorps.com de juillet 2004 à juillet 2005.
On l'a déjà interviewé d'ailleurs il y a un an et demi, dans le spécial blog de juin 2007.
Voilà, où il disait qu'il venait d'accepter d'adapter son blog en BD, donc du coup, il expliquait un peu ses raisons aussi, puisque... d'ailleurs, il explique aussi dans la BD, puisque en fait, on va expliquer ce que c'est. C'est une compilation de ces fameuses notes dans cette période-là, entrecoupées de dessins d'aujourd'hui où il explique, il revient sur certaines BD, il prolonge, il dit, on le voit parler avec Lucie Albon, qui est sa coloriste sur les Ragnarok et sur les Donjons Zénith, et qui est aussi la dessinatrice de la série des Vœux. Chez La Boîte à Bulles.
Voilà, le vœu de Marc.
Et c'est sa vieille complice qu'il connaît depuis 10 ans, qu'il avait rencontré aux Arts Déco de Strasbourg. Et il parle avec elle dans la bande dessinée en disant tiens, ah oui, mais là, c'était une série d'anecdotes qui m'avait valu pas mal de commentaires. Mais tu sais qu'il y a une chute parce que je vais te raconter ce qui m'est arrivé depuis. Au début, elle lui pose une question, mais finalement, pourquoi t'as craqué? Pourquoi tu as adapté tes notes en BD? Donc il explique bah, tu comprends, c'était pour échapper un peu à mon étiquette. D'auteur pour les BD jeunesse, puisqu'il faut savoir qu'il avait fait Ragnarok, la rubrique scientifique avant, et donc on le voit en train de s'imaginer répondre à des questions, ouais, alors face aux dédicaces, ouais, tu me fais un petit œuf et tout, et puis là ça change en oh là là, c'est fin ce que vous dessinez, et on le voit répondre aux interviews.
Alors, avec sa belle voix de basse, oui, bien sûr.
Voilà. Et donc, Lucie Albon lui répond ah oui, non, mais ça vaut pas cette réponse, puisque tu avais déjà changé de cible avec les Donjons Zénith. Bon d'accord, la vraie raison c'est, alors on le voit en train d'expliquer, alors il y a son père qui dit ouais mais tu sais j'arrive mal à voir avec l'écran, pourquoi tu sors pas un bouquin? Oh mais papa, tu sais que, ah mais attends mais t'as fait les livres d'albums, je croyais que tu faisais que du blog. Oh mais ça suffit. Alors il y a tout le monde, eh oui alors pourquoi quand tu le fais le blog, tu sais on l'achèterait, ça te ferait des sous. Ah vos gueules, bon c'est bon je fais. Donc en fait il a craqué. Le principe des dessins de boulet, c'est que il y a plusieurs styles de colorisation, la colorisation numérique, l'aquarelle, vraiment des fois du pur noir et blanc, avec juste une petite touche de couleur sur ses cheveux. Ça peut aller du style très clair au style très cracra, très ramassé sur lui-même, avec beaucoup des cases très très chargées. C'est ça qui est intéressant aussi dans son style. On voit aussi l'évolution, comme on a pu le voir aussi dans l'adaptation BD de Maliki. Et c'est vrai que là-dedans, donc il parle de ses thèmes de prédilection, donc son statut de geek, de réparateur d'ordinateur,
dans ta gueule.
Voilà, de gros barbare qui peut se transformer en berserker. On le voit en véritable ours mal léché dans son antre. Il suffit que des potes l'appellent pour boire une bière pour qu'il redevienne un mignon petit nounours kawaii. On le voit en plein démêlé avec la SNCF où il compare les aventures dans
il aime beaucoup le service public, la poste oui. En prend pas mal aussi
ouais. Et bon, c'est vrai qu'on se pisse dessus de rire pendant tout l'album, de façon qu'on ait découvert ses notes sur son blog ou dans cet album. De toute façon, bon, faut quand même remonter puisque ça commence à juillet 2004. Et c'est vrai que en plus, bon, il a quand même pensé au lecteur de son blog qui allait acheter le bouquin après pour avoir une trace papier. Il a ajouté pas mal de dessins inédits, donc ça c'est sympa de sa part. Et c'est vrai que il nous avait expliqué il y a un an et demi que ben voilà, s'il pensait déjà à le sortir en BD. Bon, lui au départ quand il avait fait son blog, c'était surtout pour rendre compte de ses périples, de ses petits voyages, de ses festivals à des potes, et qu'il envoyait en mail collectif. Et c'est Melaka qui lui a parlé de justement cette nouvelle forme d'expression qui est le blog BD. Donc avec Laurel, ça avait été une des premières en France à faire ça, et il s'y est mis avec un copain programmeur. Et puis donc du coup il disait que c'était plus pratique d'envoyer un lien dans des mails collectifs plutôt que carrément tous les dessins dans les mails,
sachant qu'au départ il a pas fait beaucoup, et au fur et à mesure il s'est obligé à en faire 2-3 par semaine, un volume monstrueux. Et c'est qui a donné en janvier pardon 2007 à Angoulême sa participation 24 heures de la bande dessinée.
Et en janvier 2008 aussi.
Oui, mais celle en juin 2007, tout le monde était impressionné par la quantité de planches qu'il a pondues.
Bah 24 planches en 24 heures. 24 planches en 24 heures, c'était le concept. Il faut savoir un truc avec Boulet qui est très 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 énervant, hormis ses histoires et son humour, c'est que il fait tout au trait à la plume directe. Enfin, au stylo direct, il fait pas crayonner. Voilà. Donc ça énerve un peu, quoi.
Ça a l'air très très bien.
Ah bah oui.
Ah bah tu connais le blog de Boulet.
Non, pas du tout, mais justement je sens.
Gros nul, tu sors. Lecteur de Télérama, sors de ce cœur.
T'as fini Hitler là.
Fais gaffe parce que Hitler, tu l'auras en tête à tête la semaine prochaine à midi.
Je vais y réfléchir pendant la semaine.
Donc, note, tome 1, Born to be a Larve. de Boulet, édité chez Delcourt dans la collection Shampoing, dirigée par Trondheim. Si vous voulez retrouver l'univers de Boulet, donc il y a bien sûr son blog bouletcorp.com. Il y a aussi la bande dessinée qui a été tirée justement de l'aventure des 24 heures de la BD en 2007, qui s'appelle Boule de Neige. Il y a Ragnarok, il y a je crois 5 tomes parus pour l'instant. Il y a la rubrique scientifique, il y a Womox qui l'a scénarisé et dessiné par Renaud.
Co-dessiné, mais c'est complètement arrêté.
Oui, ils se sont arrêtés. Il y a également la série des vœux, le vœu de Simon, le vœu de Marc. On peut le retrouver aussi dans le magazine Show, etc. Donc on peut voir son univers un petit peu partout. Et puis bien sûr il y a Donjon Zenith en collaboration évidemment avec Trondheim et John Sfar.
Et l'absence totale de chatons dans son blog, remplacé par des vélociraptors.
Voilà.
C'est même beaucoup plus drôle.
Ça me rappelle du Calvin Hobbes, les vélociraptors.
Ouais, mais justement, il y a de la référence à ça.
Okay. Il est blond aussi.
Alors lui, il est roux. Alors c'est vrai qu'il adore le manga. On voit un peu les références à Dr. Slump dans les mimiques, les personnages. Il a aussi, au niveau de la dentition, pas mal de Bart Simpson dedans aussi, de Matt Groening. Et
Non mais JB découvre, c'est pour ça qu'il montre à tout le monde, mais nous on les a lus. Donc JB fait un peu ridicule là, voilà.
Ça a l'air vraiment vraiment bien.
Tu en étais où Thomas?
Non, c'est tout, j'avais fini. Donc, note tome 1 de Boulet chez Delcourt, collection Shampoing.
Et vous avez pas le quart. Midi 56. Ouais. Du sport, les polars, peut-être la semaine prochaine.
Non. J'aurais oublié.
La semaine prochaine, il est pas là. Et il a déjà reporté. Il avait les mobiles la semaine dernière.
Ah merde. Bon, on a un courrier des audis spectateurs. Faut le faire quand même maintenant.
Allez, le courrier.
Oui. Je reviens de Suisse, là. J'ai vu passer Bernard Tapie.
Attends. Donc, on a reçu ça dans notre mail.
Oui.
De la part d'un certain Olivier. Et voici ce qu'il nous a écrit.
Il nous marque, je reviens de Suisse, j'ai vu croiser Bernard Tapie, où les banques vont bien, merci, et paf, le drame, il n'y a pas Rascal à 17h. Il est passé où, le Rascal? Et en plus, il y a Booster qui pollue la fréquence. On voit les cops, merde, faut évacuer les squatteurs. J'ose espérer que Supplément Week-end est toujours le samedi prochain, sinon je vais croire à une cabale judéo-maconique de notre chère mère. Maconique parce que il y a pas la CCDI dans
ouais, mais... tout simplement
il
n'y
a qu'un seul N.
Non, tout simplement parce qu'il a un clavier allemand, donc peut-être qu'il n'a pas d'accent du tout. C'est pour ça qu'il n'y en a pas.
Caractères spéciaux, ça existe.
Ben
aussi.
Oui. Sauf sur Windows. Ben oui. Aussi. Après 20 années de bons et loyaux services, après 20 années d'antenne, Rascal est parti pour de nouveaux horizons. La tranche 17-19h est désormais animée en alternance par une équipe plus variée. Lors de l'appel de fréquence précédemment passé et mis en application en juillet dernier, le CSA, dans son immense sagesse, a décrété que Radio FMR ne partagerait plus sa fréquence avec Radio Radio. Donc FMR est désormais aussi audible en matinée. Mais par là même, ils ont décidé d'associer Radio FMR avec Booster FM. Bon, c'est clair, ça fait comme un choc. Mais comme les relations entre les deux radios sont largement bien meilleures qu'entre FMR et Radio Radio, les moyens sont mis en commun, ce qui nous permet d'avoir un meilleur confort technique, relationnel et pour les événements spéciaux. Après, cher Olivier, regarde un peu mieux la grille. Tu verras que Booster FM fait moins d'heures par semaine que ne le faisait Radio Radio. D'ailleurs, Loïc, permanent historique de Booster FM, aime bien passer pendant notre show. On le voit souvent derrière. Oui, je sais, vous n'avez pas la couleur et nos caméras sont en panne. Mais non, mais on vous le certifie, il vient souvent. C'est toujours mieux que de mettre de mauvaises copies avant notre émission pour nous concurrencer. Je ne dirais pas que Radio Radien a été des esprits mesquins, je l'ai déjà écrit. Oui, nous sommes là, et le podcast aussi. Mais comme nous n'avons plus Radio Radio avant nous, nous allons bientôt changer de générique. Plus besoin de faire l'ouverture d'antenne de Radio FMR. Oui, c'est-à-dire plus besoin d'expliquer ce qu'est Radio FMR dans le générique à chaque fois, avec la très charmante voix de Sabrina. On n'osera plus. Vous savez, c'est quand elle dit... C'est un petit peu plus loin.
FMR est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Bonjour à tous.
Voilà.
Salut.
C'est juste une heure après, là. Il est midi, il est 13h pile. Eh ben oui, donc ça on le faisait, c'était pas seulement pour expliquer ce qu'était la radio au podcast, mais aussi pour faire un choc musical par rapport à Radio Radio qui était avant nous et comment dire, qui faisait de la parlotte et qui essayait de faire plus chiant que nous, rien que pour nous se foutre de notre gueule. Ben voilà, là maintenant c'est fini, on en a plus besoin, maintenant on aura notre propre générique. Et de ceux qui l'ont écouté, le nouveau, il dépote légèrement. On vous en laissera la surprise. On fait même actuellement un casting pour faire la nouvelle voix off. On songeait à Don Fontaine, le monsieur avec des couilles qui dit « Coming soon ». Ce tout est bande annonce américaine. Malheureusement, le monsieur en question est indisponible pour cause de décès depuis 3 semaines. Bien respectueusement, tu viens de gagner un bouquin et on s'est pas foutu de ta gueule. Donc, il arrive régulièrement que j'achète un bouquin en double ou que j'achète un bouquin avant de le recevoir par attaché de presse. Donc, le bouquin que j'achète en trop... il est à part, et on se dit un jour on les fera gagner.
Donc c'est B. Sen de Tomo Taketomi.
Voilà, un bouquin qu'on avait beaucoup aimé.
Un bouquin en 6 histoires.
Qui est préfacé par Jean-David Morvan et
La vraie vie,
donc...
mais en mieux.
Voilà, après, c'est juste après avoir parlé des blogs, ça tombe bien. C'est donc chez Cana, et c'est pour toi si tu me renvoies l'adresse par mail, parce que je sais que tu ne passeras pas forcément. Voilà. Ce que t'as dit toi-même, c'était un peu tôt. Je te renvoie la question par email. Ciao.
Ah, on s'en va, ça y est.
Ami auditeur, si toi aussi tu veux gagner les BD, c'est très simple, il suffit de poser des questions intéressantes. Tu vas sur Supplément Weekend, tu vas dans Google, tu tapes Supplément Weekend, on est tout en haut, et tu vas sur poser nous une question. Et si t'as une bonne question, peut-être
on la lit en antenne.
Alors oui, donc on ne répond aux questions
de JB.
On ne répond qu'aux questions qu'on estime intéressantes. Attention.
Oui, les questions que je vais vous poser. Était-elle intéressante?
Oui.
Celle-ci.
Donc,
oui.
Oui.
Voilà.
De façon, si les questions sont intéressantes, on les lit à l'antenne, donc on y répond.
D'accord. Donc je donnerai toutes mes questions à Carole.
Bon, alors conformément à la juridiction sur les jeux primés, les membres de la société et leurs familles ne peuvent y participer, ainsi que leurs proches.
Le deuxième prénom de Xavier est-il Adolphe?
Oui, nous confirmons. Zigraï. Okay, on va peut-être passer au polar, vous faites chier les enfants. Du sport, s'il te plaît.
Cher Philippe.
Du sport,
t'as pas
vraiment allemand couramment
fond, là. Alors,
parce
selon
que
la
je n'ai que
4
mains, moi, s'il vous plaît.
Selon la musique de fond, il va choisir livre main gauche ou main droite.
Amon Tobin, c'est album quoi, Super Monday Shade. Allez, à ton choix.
Allez, bon.
Je sais pas, je connais pas l'ambiance.
Visiblement, ça compte, bon, okay. Ça collait pas.
Alors, tout d'abord, le premier roman d'un homme qui s'appelle Pete Dexter. Pete Dexter qui est né à Pontiac, dans le Michigan, en 1943, et qui a surtout travaillé au départ comme journaliste au Philadelphia Daily News, au Sacramento Bee et au Seattle Post Intelligence. Il a beaucoup voyagé, ce monsieur. Mais dans ce premier bouquin, il faut dire qu'il a travaillé comme journaliste donc depuis la fin des années 60 jusqu'au début 80, parce qu'il change radicalement de vie en 81. Suite à un événement survenu dans sa vie, vous verrez plus tard que ça a un rapport avec son livre, le premier, donc, qui s'appelle God's Pocket, qui est sorti en 84. Il arrête donc le journalisme en 81, il commence à écrire et sort son premier livre en 84, God's Pocket, donc, qui vient d'être édité il n'y a pas si longtemps que ça, qui vient de sortir en version française, là, cette année, là, hein, donc, aux éditions de l'Olivier. Après God's Pocket, il sort un bouquin 2 ans plus tard qui s'appelle Deadwood, dont on a pu voir une adaptation en série sur la chaîne HBO. Vous savez, cette fameuse série.
C'est tiré de son bouquin.
C'est pas tiré de ce bouquin, mais du bouquin suivant. Voilà, c'est Pete Dexter donc qui est à l'origine de Deadwood. Puis 2 ans plus tard, Paris Strout, qui a reçu le National Book Award for Fiction quand même.
S'il vous plaît.
Brotherly Love en 91, The Paperboy en 95, Train en 2003 et Paper Trails en 2007. Paper Trails qui est d'ailleurs en fait une suite des textes, des chroniques qu'il faisait dans ses journaux en tant que journaliste. Donc, outre Deadwood donc, qui a été adapté par la télé, il y a également Cottage Point dont le titre original est Paris Strout, qui est devenu Rage au cinéma. Alors bon, adaptation un petit peu ripou, on va dire. Il a collaboré à quelques scénarios de films relativement connus comme Rush, comme Michael, Mulholland Falls. Et il n'y a rien à voir avec Colin Dexter, qui lui est anglais, et qui est d'ailleurs l'écrivain brillant qui nous a sorti un certain Inspecteur Morse. Mais rien à voir, hein, rien à voir. Ils ont que le nom nom propre en commun. Pete Dexter, donc, dans ce bouquin God's Pocket, qui est donc son premier roman, ça se passe à Philadelphie. L'une des particularités hein, des écrivains américains que je programme ici, que je chronique ici, c'est que souvent ils sont attachés à une ville et ils arrivent bien à la décrire. Alors l'exemple le plus flagrant, c'est bien entendu James Ellroy avec Los Angeles,
hein, oui,
qui décrit vraiment la ville à travers sa géographie, mais également à travers son histoire. Là, c'est plus la géographie, c'est-à-dire on est plus plongé dans la ville de Philadelphie. À travers les différents endroits et tout, on arrive presque, pratiquement comme un tom-tom, tu vois, quand t'arrives à te diriger dans la ville sans jamais y être allé, à l'instar de Dennis Lehane pour la ville de Boston, c'est un petit peu pareil. Et là, dans God's Pocket, en fait, c'est l'histoire qui part au départ d'un fait divers tout à fait simple. On croit que c'est un accident du travail, mais en fait, c'est un meurtre, hein, c'est-à-dire un mec qui se reçoit une grosse grue sur la gueule, quoi, un truc comme ça, quoi. On se dit bon, bah, c'est un accident du travail et tout. Les flics viennent enquête. Ah bah ouais, ça s'est passé comme ci, comme ça. En fait, non, il s'agit plus ou moins d'un règlement de compte dû au fait qu'il y a des différences de vue, on va dire, hein, entre deux types qui travaillent sur un chantier. Un vieux, très vieux noir et tout, qui est là, assidu au boulot, qui fait que ça et tout, qui a sa vie pépère et tout. Et un jeune mec qui est là, qui ouvre sa gueule, qui frime, qui a tout le temps son couteau sur lui, qui le sort à tout bout de champ, et qui est là que pour branler et ramasser sa paye. Et qui en plus a été installé dans ce boulot par connaissances, on va dire, assez mafieuses, hein, c'est-à-dire le trip qu'on avait connu un petit peu dans les premiers épisodes des Sopranos, où, qu'on voit poursuivre, hein, d'ailleurs, dans les différentes saisons des Sopranos. On voit carrément des mecs qui bossent sur un chantier, mais tu vois, les mecs sont sur le chantier en train de jouer aux cartes et tout, mais ils sont payés, quoi, en tant qu'ouvriers, parce qu'il faut bien qu'ils aient une occupation légale. Tout simplement une fiche de paye, tu vois, un truc comme ça, quoi, parce qu'ils sortent de tôle, donc ils ont besoin d'avoir un boulot à pointer, un truc comme ça et tout, et donc on leur fournit un boulot comme ça clé en main, mais ils ont pas besoin de bosser, quoi, si tu veux, parce que bon, ben derrière il y a des patrons tout puissants qui veillent. Et suite à cet incident, donc eh bien, un journaliste chroniqueur très connu, mais qui a des années de journalisme derrière lui, et qui signe une fameuse page 2 dans le quotidien le plus lu de Philadelphie, s'intéresse à cette petite histoire, car il est surtout connu comme étant le journaliste qui va prendre un petit peu la défense des pauvres, des gens dont on ne parle jamais dans les journaux, et qui a réussi justement, quoi, à retranscrire une espèce de vox populi. Donc une espèce de conscience populaire qui plaît justement au lecteur et qui font de lui un journaliste très respecté. Malheureusement, la face cachée, enfin pas tellement cachée de ce journaliste, hein, c'est que c'est un alcoolique, c'est un mec qui est sur le retour, c'est un type qui a plus ou moins loupé sa vie sentimentale, il est divorcé, il n'a que des aventures sans lendemain. Et donc il va se prendre un petit peu, pas d'affection, mais au départ, ce sujet qui est un sujet de fait divers tout à fait anodin, il va le rejeter, le laisser au type qui lui fait l'ensemble de ses papiers, qui lui mâche le travail, on va dire, hein, lui n'apposant que la dernière patte pour rendre le boulot fini et empocher bien entendu les dividendes. Et de fil en aiguille, eh ben il va se rendre compte, surtout à cause de la personnalité un petit peu spéciale de la mère du type qui se fait dégommer, et surtout parce qu'il va commencer à avoir des accointances un petit peu spéciales avec cette femme, que ce n'est pas exactement ce qu'il paraît, et que les choses peuvent être un tout petit peu différentes. Et conjointement à ça, eh bien, du côté des gens qui ont envoyé ce jeune gosse un petit peu tête brûlée se faire dégommer sur le chantier, simplement travailler, on va faire une enquête du côté de la mafia, c'est-à-dire de ceux qui tiennent un petit peu les rênes de la ville de Philadelphie, hein, ça va donner, eh bien, des trucs pas très nets, quelques petites fusillades, des trucs bien dégueulasses, bien trash quand même, et ça va se terminer très très mal, parce que eh bien, le journaliste, c'est d'abord son aide et tout, qui va aller dans ce fameux quartier. God's Pocket est en fait un quartier de Philadelphie où se trouve vraiment le peuple, hein, les gens tout au bas de la couche sociale, de la plus basse couche sociale, qui bossent, qui triment, qui sont les pouilleux en fait de la société, hein, qui sont là mais qui ne ramassent jamais les dividendes, un petit peu à l'instar de Hell's Kitchen à New York, hein, c'est un petit peu le même genre de quartier mais à Philadelphie. Et donc vers la fin du livre, quand le journaliste va descendre dans God's Pocket pour se rendre compte qu'en fait, ce qu'il avait écrit dans le journal, où il encensait ce jeune, encore un jeune, victime des accidents du travail, de l'inconscience des patrons, enfin tout le bordel, c'est-à-dire plein de préjugés et plein de clichés bienvenus qui font toujours plaisir, bien entendu, à ceux qui lisent les journaux, hein, c'est normal, pour aller dans le sens du poil, il va se rendre compte que c'est pas exactement pareil, mais surtout, il va se faire dégommer la gueule, parce que bon, bah, les gens vont le regretter en lui disant bon, bah, ok, t'as rien compris au film et tout, t'es là-haut sur ta tour d'ivoire et tout, et puis bon, ils vont lui péter la gueule, mais alors de façon assez mémorable. Et en fait, cet événement est un événement qui est réellement arrivé à Pete Dexter en tant que journaliste, où il avait, dans une histoire un petit peu similaire, eh bien, pris la défense d'un jeune à qui il est arrivé un règlement de compte, on va dire, hein. Le mec s'était fait dégommer par une espèce de bande concurrente, et lui il avait pris la défense de ce mec là en se disant ouais, il l'avait encensé et tout, alors que ce type était un vrai pourri et qui méritait vraiment, quoi, de se faire dégommer la gueule. Et quand il est allé se rendre compte de visu ce qui se passait et tout, ben il rentre dans un bar et tout, et en sortant du bar, parce que bon, en plus le mec alcoolique pratiquement au dernier degré, biture dès 10h du mat tous les jours, il se fait dégommer par une quarantaine de mecs qui le laisse pratiquement handicapé. Il a dû se faire faire, Pete Dexter, l'auteur, a dû se faire faire plusieurs opérations du visage pour se refaire reconstruire le visage, parce que bon, il était carrément, mais alors défiguré, plusieurs membres en vrac, il s'est déplacé en fauteuil roulant pendant plusieurs années, et donc c'est un événement qui l'a vraiment marqué, qu'il a su bien retranscrire dans ce bouquin, et surtout retranscrire les motivations intellectuelles du journaliste qui est là et qui est à une période charnière de sa vie. Bien évidemment, le journaliste dans le livre apparaît un petit peu plus vieux, plus âgé que ne l'est Pete Dexter quand cet événement lui arrive. Donc c'est vraiment très très bien retranscrit, en tout cas. Et la fin n'a rien à voir avec ce qui arrive au journaliste d'ailleurs, hein. C'est la fin qui concerne le petit copain de la mère du type qui décède au début du bouquin, et qui se fait poursuivre par la mafia, parce que c'est lui en fait qui, indirectement, en trouvant ce boulot et en allant chercher les chez plus haut du côté de la mafia de Philadelphie, des appuis pour faire rentrer son beau-fils dans cette entreprise, le fait indirectement tuer. Et donc en allant chercher les raisons de ce qui s'est vraiment passé, eh bien, il se rend compte que il a mis le doigt dans l'engrenage qu'il aurait pas dû, et donc il se trouve obligé de fuir et de se barrer très très loin, en attendant que peut-être un jour il vienne le retrouver. Un très très beau livre, hein, donc, de Pete Dexter. C'est son premier, hein, God's Pocket, sorti donc en 84 en langue originale, mais sorti uniquement cette année, donc dans l'excellente collection d'édition de l'Olivier, donc par Pete Dexter. Le deuxième, c'est un bouquin de Georges Pelecanos. Alors, il y a un point commun avec Pelecanos et Pete Dexter, c'est qu'ils sont tous les deux édités par les éditions de l'Olivier pour la majeure partie de leurs bouquins. Celui-ci, Drama City, est un one-shot, c'est-à-dire ce n'est pas une histoire avec un héros qui est plus ou moins récurrent, parce que Pelecanos, lui, est un peu plus jeune que Pete Dexter, il est né en 57 à Washington. Il fait des études de cinéma à l'université du Maryland, et en 81, il crée Circle Film, une boîte de films qui essaye d'importer des films venus d'ailleurs, de l'étranger et tout, pour les distribuer sur le territoire américain. C'est ainsi que il édite The Killer de John Woo, entre autres Blood Simple, le premier Joel et Ethan Coen, et également 36 fillettes de Catherine Breillat, entre autres. Il commence à écrire par la suite, on peut résumer un petit peu sa bibliographie, l'ensemble des bouquins qu'il a écrit, en plusieurs phases, plusieurs périodes. La première, c'est la période Nick Stefanos, donc un héros récurrent qui s'appelle Nick Stefanos, qui, comme Pelecanos, est un enfant de l'immigration, mais là l'immigration grecque, quoi, donc, hein, le nom Pelecanos veut tout dire, qui vit à Washington. Là, c'est pareil, tous ses romans se passent à Washington, et il décrit cette ville très très bien, très magnifiquement, avec toujours une espèce de référence à la musique et au basketball. C'est un des point récurrent dans l'œuvre de Pelecanos. Alors, de Nick Stefanos, le premier bouquin est sorti en 92, A Firing Offense, traduit par Liquidation, est sorti en 2003 en France. Nick Strip, en 93, est sorti en 2001 sous le titre français Nick la Galère. Puis d'autres bouquins de Nick Stefanos, c'est Down the River Where the Dead Man Go, qui n'a pas été traduit, en 95, et Anacostia River Blues, qui n'a pas besoin de traduction, le même titre en français, qui ont été regroupés d'ailleurs dans la collection Mibus, les Stefanos Novels, avec donc trois de ses romans, Down by the River, Firing Offense et Nick Strip. Puis le DC Quartet, à savoir la collection de quatre romans qui est la plus connue et dont le personnage récurrent est le personnage un petit peu le plus emblématique et le plus fort, on va dire, hein, de la biographie de Pelecanos, à savoir Peter Karras, avec en 96 The Big Blowdown, qui est titré en français Un homme et Peter Karras, hein, sorti chez Point Policier en l'an 2000, puis King Suckerman, sorti en 99, c'est-à-dire un an avant un nommé Peter Carras qui a été écrit avant. Enfin bon, cherchez pas, hein, mais enfin bon, c'est comme ça. Sorti aux éditions de l'Olivier. The Sweet Forever en 98, Suave comme l'éternité en 2000, aux éditions de l'Olivier, toujours aux éditions de l'Olivier. En 2001, Funky Guns, dont le titre original est Shame the Devils en 2000. Puis, après ce DC Quartet, qui est vraiment l'œuvre majeure, hein, de Pelecanos. Enfin, du moins pour moi, j'ai lu ces quatre-là, plus de Nick Stefanos, puis un de la série suivante qui est l'association de deux détectives privés qui également eh bien zone un petit peu dans les rues de Washington pour démêler des petites affaires comme ça. Deux détectives privés dont l'un est un ancien avocat. Il y a Right as Rain qui sort en 2001, Blanc comme neige en 2002 en français, Hell to Pay en 2002, Tous payent. Traduction un petit peu ledge quoi, en 2003. Soul Circus, même traduction en 2004 en français. Et Hard Revolution qui sort en 2004-2005 en France. Tout ça est sorti dans la collection Omnibus. Les trois premiers sont sortis donc en bouquin complet avec les trois romans. Right as Rain, Hell to Pay et Soul Circus est sorti dans la collection Omnibus en 2005. George Pelecanos est également connu parce qu'il s'est un petit peu accoquiné. Il vient du cinéma, donc il s'est un petit peu accoquiné avec des noms assez connus dans le milieu du cinéma. Il a fait quelques approches avec Coppola pour essayer de monter des scénarios et de monter un film. Ça s'est pas fait, mais c'était bien entendu dans l'air. Il a un petit peu aussi travaillé avec Scorsese, hein, c'est pas trop loin. Mais surtout, eh bien, ce qu'on retient de lui et qu'on a pu voir à l'écran, eh bien, c'est qu'il a travaillé à l'écriture et à la production de The Wire, à savoir sur écoute l'excellente série de David Simon, donc que du très bon. Dans Drama City, le bouquin que j'ai ramené, hein, qui est sorti en 2005 et qui porte le même titre en anglais et en français, c'est un one-shot, donc il n'y a pas de Nick Stefanos, de Peter Carras, de Derek Strange ou de Terry Quinn. Ça raconte l'histoire de Lorenzo Brown, un mec qui sort de tôle et qui a décidé de se tenir bien à carreau et tout parce qu'il appartenait au monde des gangs qui sont vraiment omniprésents dans les rues de Washington, un petit peu plus peut-être dans les rues de Washington, les gangs black. Parce qu'il faut savoir que Washington, dans le temps, s'appelait quand même The Chocolate City, hein, là, parce que la population black est très 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 importante à Washington. Enfin, le pourcentage est très important, plus important que dans les autres grandes villes des États-Unis. Parallèlement à ça, eh bien, on apprend un petit peu à connaître la vie de celle qui est son juge d'application des peines, voilà, c'est comme ça qu'on dit en français, hein, alors que Lorenzo Brown, lui, comme boulot, ce qu'il a trouvé, eh bien, c'est de travailler dans un chenil, quoi, c'est-à-dire aller chez les gens, voir si les animaux sont bien traités, s'ils sont maltraités, bon, les ramener, les foutre au chenil, voir les euthanasier s'ils sont en trop mauvais état. Mais malheureusement, il va encore se retrouver affrayé avec des gens qui faisaient partie des gangs qu'il avait l'habitude de fréquenter avant de rentrer en tôle. Et à la suite d'un événement qui se déroule entre deux membres de gangs opposés qui, pour une histoire de place sur une rue pour vendre de la dope, sont pas d'accord alors qu'ils se sont plantés, quoi. Ouais, ce quartier est à moi, cet angle de rue est à moi. Ah ben non, les chefs après ils disent ah ben non, c'est vrai, t'avais raison, ils se sont plantés, c'est pas notre faute. Bon, maintenant il faut rattraper les wagons. Bon, il y a fusillade, il y a meurtre, il y a enquête et tout le bordel. Et lui, bien, va se retrouver confronté par amitié, on va dire, avec l'un des chefs de gang, eh bien, à cette situation qui va un petit peu dégénérer parce que l'un des chiens fous qui a descendu, justement, le type qui était pas sur le bon côté, soi-disant, eh bien, va commencer à dégommer tout le monde, quoi. À savoir, il va essayer de dégommer le juge d'application des peines, la nana, hein, qui a une vie un petit peu spéciale. C'est-à-dire, elle est très propre sur elle et tout, au boulot, nickel et tout. Mais le soir, elle va s'arsouiller dans les bars et niquer dans les chiottes avec des mecs qu'elle connaît pas, juste comme ça, parce qu'elle veut pas d'aventure suivie. Enfin, bon, tout ça, c'est un petit peu le monde de Pelecanos, c'est vachement bien rendu. Drama City est quand même un petit peu en deçà, on va dire, hein, que les romans que j'ai cités, surtout ceux du DC Quartet, voire ceux de Nick Stefanos. En tout cas, ça se laisse quand même très très bien lire comme polar et on passe un très très bon moment. Drama City de George Pelecanos, alors sorti là en édition de poche, c'est-à-dire au Point Policier, mais également en grand bouquin si vous aimez bien les belles collections et tout pour frimer devant vos copains et vos copines. C'était sorti aux éditions de l'Olivier en grand format, voilà pour les polars. De la télé à présent,
Ouais, de la télé.
La télé avec Starak, non, Starak à fond, regarde, ouais. C'est quoi.
Ouais, j'adore la publicité où il y a marqué « Sois différent, sois toi-même ».
Ouais, sois toi-même, avec Camp Rock, qui est un petit peu une Starak à l'américaine. Alors, c'est encore dans la foulée de Ice Cube Musical. Dans la foulée de Hannah Montana, c'est du Disney, attention, c'est du Disney, hein, donc c'est vachement plus sérieux que l'autre grec là, pas Pelecanos, mais
on a bien compris,
Nikos,
Nikos,
Nikos
Aliagas,
ça n'a rien à voir, Camp Rock,
j'ai passé
donc,
beaucoup de choses au château.
Alors, ça sera diffusé donc sur les chaînes Disney à partir de mardi prochain, alors sur Disney Channel à partir de 18h, alors c'est un film, hein. C'est pas une série.
Avec
c'est
des jeunes filles.
Avec une jeune fille, hein, Demi Lovato.
En fleurs.
Sur Disney Channel Plus, ce sera à 19h. Et à Disney Cinemagic, ce sera à 20h. Ah, ça raconte l'histoire eh bien, de Demi Lovato, qui est complètement inconnue. Hein, c'est-à-dire qu'on la connaissait pas, comme c'est Anna Montana avant ou d'autres qui avaient déjà fait leurs preuves. Buffy, tu sais, quoi, qui avait tourné dans les Disney, enfin, plein de jeunes filles comme ça, hein, Christina Aguilera, enfin, toute la bande.
Ah, on dit que c'est la prochaine Britney Spears.
Justin Timberlake et tout, enfin, tout cela, là. Non. Elle débarque, là, dans Camp Rock, où elle joue le rôle d'une petite fille à sa maman, qui doit aider sa maman à faire la cuisine, dans un Camp Rock, à savoir, eh bien, une espèce d'usine où on fabrique des futures stars. Et là, elle va se faire révéler, découvrir par le chanteur du groupe vedette de Camp Rock et qui est interprété par ce groupe fameux que tout le monde connaît, les Jonas Brothers. Vous connaissez pas les Jonas Brothers?
Oui, j'ai vu les publicités.
Ah, tu vois, en moins un kick-fi, c'est bien, ça fait plaisir. Alors tout ça, ça débarque donc sur Disney mardi prochain et c'est vachement mieux que la Star Act, de toute façon, ça je vous assure.
Tu coupes pas. Couchez les filles.
Ouais, couchez. Allez, de la télé à présent avec les Emmy Awards. 60e Emmy Awards, les Oscars pour la télé. C'est sur Série Club comme d'habitude, ce sera donc en direct dimanche soir à partir de 0h45, mais en léger différé lundi prochain à 20h45 donc. Et comme c'est les 60e, alors déjà, catégorie nouvelle. Alors là, il y a même des prix pour les émissions de télé-réalité, la totale.
Déjà,
ouais, mais là, ils ont fait plusieurs.
Tu sais qu'il y a une catégorie.
Plusieurs genres de télé-réalité, tu vois quoi. Si. Là, avant, c'était télé-réalité, tout et n'importe quoi. Là, maintenant, t'as les genres. Tu vois, alors.
La meilleure télé-réalité où on se fait piquer sa nana, la meilleure télé-réalité où on bouffe des verres,
la meilleure piscine dans une télé-réalité.
Alors,
et la meilleure scène de baise.
Pour faire rapide, vite fait, alors, juste les quatre catégories qui nous intéressent le plus, à savoir meilleurs acteurs, meilleures actrices. Alors, dans les séries comiques, meilleures actrices sont nommées Julia Louis-Dreyfus. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que bon, ben, au niveau des nommés pour les acteurs, ce sont déjà des acteurs confirmés ou des actrices confirmées, et ce sont déjà des séries, la grosse majorité des séries qui n'en sont pas à leur première saison, hein. C'est souvent deuxième, troisième saison. Donc, bon, on s'attend à plus ou moins à des matchs ou alors plus ou moins à des récompenses par, comme ça, plus ou moins par obligation de genre, ouais, il l'a eu la dernière fois, donc on va le donner à l'autre et tout, quoi, comme ça, ouais, y a pas de problème et tout, parce qu'il méritait quand même l'année dernière, mais enfin bon, on n'a pas pu, quoi, tu vois. Alors, il y a Julia Louis-Dreyfus pour Old Christine, il y a Christina Applegate pour Samantha Who, ça c'est une nouvelle série, Tina Fey pour Sorty Rock, qui avait obtenu le prix de la meilleure série comique l'année dernière, America Ferrara pour Ugly Betty, et Mary-Louise Parker pour Weeds, meilleur acteur dans une série comique. Alors là,
ouais, quand même.
C'est pareil. Alors, Tony Shalhoub, il l'a déjà eu deux fois, je crois, hein, pour Monk, mais il est encore nommé. Steve Carell pour The Office, version américaine.
Ah, j'ai vu 40 ans toujours plus haut cette semaine. Excellent.
C'est très, très bien. Lee Pace pour Pushing Daisies, une série qui va bientôt sortir, je crois, sur TF1. Adam Baldwin pour 30 Rock. et Charlie Sheen, qui l'a déjà eu au moins deux fois pour Two and a Half Men, à savoir
mon oncle
Charlie. Voilà. Ouais. Les séries dramatiques meilleures actrices sont nommées Kyra Sedgwick pour The Closer, Sally Field, qui l'a déjà eu pour Brother and Sister, la saison 2, elle a déjà eu dans la saison 1. Alors bon, attends, faut quand même pas pousser. Glenn Close pour Damages. Mariska Hargitay, là, ouais, pas mal pour New York, unité spéciale. Et Holly Hunter pour Saving Grace, qu'on a vu d'ailleurs sur Canal Plus il y a pas si longtemps, là, la mini-série. Meilleur acteur dans une série dramatique. Alors, là, c'est pareil, hein. C'est pratiquement que des gens qu'on a déjà vu, à part, Gabriel Byrne dans In Treatment. Et Bryan Cranston dans Breaking Bad. Les autres, ben, ils sont connus, hein. Hugh Laurie pour Doctor House. Ouais. James Spader pour Boston Justice. Michael C. Hall pour Dexter. Et Josh Hamm pour Mad Men.
Michael C. Hall, c'est lui qui joue Dexter? C'est son,
Michael C. Hall.
Je sais pas qui c'est.
Tu confonds Dexter avec Anthony Michael Hall, peut-être.
Là, non, pour moi, lui, l'acteur qui joue Dexter, c'est...
Oui, c'est lui, ouais.
C'est
Dexter,
trop fort, ce mec-là.
Voilà. Ok. Bah oui, non, c'est lui. Hein.
Surtout quand t'as vu, quand tu l'as vu jouer dans
Six Feet Under,
tu fais non, c'est lui? Oh, sérieux? Il est trop bon. Voilà, bon, bah,
oui.
J'ai donné ma préférence.
C'est, oui, c'est le frère. Mm-hmm. Le frère de Peter Cross.
J'aime bien du film. Bah ouais.
D'accord. Ok. Donc, les amis, c'est demain soir, à partir de 0h45. En direct, et c'est toujours malheureusement quoi, commenté par Mathieu Delormeau et
encore
François Pierre Pélinard Lambert. Hein,
encore du buddy commenting.
Ouais, buddy guy. Sinon, sur Sci-Fi, quand même, ça c'est de la bombe et ça va faire attendre un petit peu ceux qui attendent depuis. Allez, presque 3 mois maintenant. Non, il y en a marre. Allez, on attend. La 4e et dernière saison de Battlestar Galactica. Mais il faudra attendre encore un peu.
Il n'y a pas que des fans de cette série ici. Hein.
Parce que, eh bien, il faut dire que cette 4e et dernière saison, eh bien, a été coupée en deux parce que grève des scénaristes. Et que donc, ils se sont dit, pour faire patienter un petit peu et pour rassembler un petit peu le fouillis intellectuel des 3 premières saisons où il y a des gens qui disaient putain, on comprend rien, qu'est-ce que c'est de daube, ils partent dans toutes les directions, on sait pas où ça va, mais jamais ils vont réussir à rattraper le coup, c'est n'importe quoi. Un téléfilm est diffusé par Sci-Fi Razor qui a été présenté au dernier Comic-Con de San Diego, pas plus tard que début juillet. Donc, c'est un téléfilm de transition. Donc, qui fait une bonne heure et demie et qui sera diffusé lundi à 20h45 par Sci-Fi et réalisé par Félix Enriquez Alcala. Donc, ça ira, y a pas de problème. Lui, c'est un faiseur, ce mec. C'est un mec qu'on a vu au générique de pratiquement toutes les bonnes séries. Il réalise au moins quelques épisodes, hein, sans problème. Il a commencé avec NYPD Blue, mais dans toutes les séries, même les plus improbables, à un moment, Félix Enriquez Alcala, bah tu le vois, ouais, il réalise tel épisode, New York Unité Spéciale, allez, puis tout et n'importe quoi. Enfin bon, c'est quand même un bon faiseur, quoi. Il y a pas de problème, quoi. Donc Battlestar Galactica Razor, c'est le téléfilm, donc transition entre la 3 et la 4 saison. Sci-Fi lundi à 20h45. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est sur iTélé. Bon, vous regardez pas iTélé, mais c'est bien dommage parce vous verriez les bonnes bandes annonces qui peuvent nous formuler pour les futures émissions à venir. Et je ne parle pas des girls de Playboy, ce que j'aime pas du tout. Mais plutôt de cette nouvelle émission de télé-réalité. Avec iTélé, on avait déjà eu la vie rêvée de Denise Richards. L'ex de Charlie Sheen, donc, alors bon, c'est tout et n'importe quoi. On avait déjà
non,
eu.
Non, mais il parle pas iTélé. Il parle Entertainment TV.
Bah, iTélé, ouais.
E-télé.
I en anglais. E-télé, ouais.
Je croyais iTélé, la chaîne d'info.
Mais nous aussi.
Mais non.
Mais pense à ceux qui n'ont que la TNT. Les défavorisés qui n'ont que Télé Toulouse.
Entertainment Télé, non, mais c'est vachement dur à dire.
Entertainment TV, tu peux pas le dire.
Voilà. Donc...
Bah, dans ce cas, tu dis ETV, pas.
Alors, on avait.
Il a honte parce qu'il avait dit It Crowd la dernière fois, alors.
Oui, c'est clair, c'était un petit peu ridicule.
IT Crowd.
Bah, non, c'est It.
Non, c'est IT.
IT, quand c'est collé, c'est IT. Je suis désolé, quoi. Alors, ils pourraient mettre au moins les points, tu vois, à la fin.
Mais c'est des majuscules.
Les points ne sont pas là.
Bah, on les met pas. Quand on parle de IT, on met en majuscule IT.
Mais même au majuscule, tu mets des points.
Et ça veut dire quoi, IT, alors?
Information Technology.
Bon, revenons-en à Entertainment TV. Avec déjà, on avait vu donc Denise Richards en toute liberté, ou la vraie vie de, ouais, un truc comme ça. Il y avait également les Lohan, hein, donc Lindsay Lohan et sa mère et tout. Alors c'est vachement marrant parce que tu te rends compte que si Lindsay Lohan elle est comme elle est, c'est parce que sa mère c'est une sacrée poufiasse aussi au départ. Ouais. Ah ouais ouais vraiment quoi. Tu te dis bon mais c'est pas étonnant, y a pas à chier, ok t'as compris. Et puis tu prends parti pour Lindsay en plus, tu te dis bon mais c'est normal, merde, pas déconner quoi. Mais en plus elle est bien quoi, elle est tranquille quoi. Et là la nouvelle c'est demain soir à 20h35, alors là, la bomba de chez Bomba, alerte à Malibu. Pamela Anderson en liberté.
Oh, la chinoise avec celle-là.
Ah ouais. Non, mais depuis qu'elle s'est fait réduire les seins, elle est nouveau.
Attends. Il parle de la semaine sur CinéFX. Il va en reparler.
Mais non, je peux pas parce que j'ai trop pu le truc.
J'ai cru qu'elle allait me parler de Barbara.
Qui passe lundi, mais enfin, je voulais pas programmer, quoi. Ça passe lundi. Sur CinéFX, d'ailleurs.
c'est vrai que t'aurais pu zapper parce que entre, elle est passée.
C'est pour ça qu'il hésite à chaque fois à me filer sa prog en avance.
Elle est passée au Grand Journal. Elle est repassée chez Koé deux jours plus tard. Ça suffit, hein.
Non, mais
c'est pour la promo de quoi, pour ça?
La semaine.
Je sais même plus, j'ai zappé, j'ai fini.
Parce que la semaine sur CinéFX, en fait, j'ai commencé, puis je me suis fait interrompre. Je crois que j'ai dû changer la couche du gosse. Je vais pas continuer, puis j'ai embrayé. Donc j'ai fait que le samedi et le dimanche. Quoi, la semaine sur CinéFX. Sachez quand même que ce soir c'est spécial série animation avec à 21h les Sentinelles de l'air, l'épisode numéro 4, Terreur à New York, suivi de Capitaine Scarlet,
oui attends j'ai.
suivi de Galaxy Express 999.
Très bien,
tu vois. Ouais.
C'est quand même bien CinéFX le samedi soir. Sinon demain il y a Relic de Peter Iams, hein, sympathique, hein, Penelope Miller, Tom Sizemore, Linda Hunt, ouais c'est pas mal quoi, ça se laisse regarder. Et c'est un film.
C'est un Iams correct par rapport à ce qu'il fait d'habitude.
Ouais ouais non mais ça se laisse regarder, y'a pas de problème.
Je me souviens d'un.
Ah
oui, oui.
Il y a eu 2001, il y a eu.
2010.
Il y a eu 2010 et c'était lui.
Williams, ouais.
Et la fin des temps avec.
Oh, c'est lui en plus.
Charlie,
oh,
oui. C'était lui aussi.
Oh merde.
Oh oui. Oh oui.
Aïe, hein.
Mais par contre, après Relic, demain soir, il y a un film dont je peux rien vous dire, mais le titre est vraiment super. C'est The Trollenberg Terror de Quentin Laurent, un noir et blanc de 58 à 22h45. Donc là, ça vaut peut-être le coup. Ça, c'est sur CinéFX. Et je vous avais fait vite fait une série de films avec 3 dedans, quoi. Le numéro 3.
Ouais, j'ai vu passer ce titre dans le conducteur, je me suis dit qu'est-ce que c'est que
voilà,
ce truc.
Voilà. Alors déjà,
tu vois, c'est plus drôle quand tu donnes les programmations à l'avance.
Ouais, mais parce que
alors,
si
je vais essayer
demain
de trouver
soir,
des bandes son qui commencent par 3, hein.
Alors demain soir, W9 qui d'ailleurs j'ai même pas noté le nom des chaînes. Je suis n'importe quoi, tu vois. Alors W9 demain soir 3, à 20h45 Highlander 3.
Ouais. Avec Mario Van Peebles.
Mario Van Peebles et Deborah Unger.
Oh là 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 là. En plus on la voit bien dedans.
Petit message personnel à Manu. Non, tu l'as déjà vu, tu ne passeras pas chez moi.
Et W9 donc
je vais le revoir
celui-là. W9 de toute façon, toujours divisible par 3. Donc lundi à 20h45, Rambo 3 de Peter MacDonald avec cela et Richard Crenna, Marc de Jonge et Kurtwood Smith. Ensuite, il y a également le Bounty, mardi, la troisième version, donc la version avec Mel Gibson et Laurence Olivier. Bah ouais, il y avait deux autres versions dans les décennies précédentes. Et vendredi, sur Cinéstar, Destination Finale 3 de James Wong avec Marie-Elisabeth Winstead, Ryan Merriman et Chris Lemke. Voilà. Pour la télé cette semaine. Et
James Wong qui va réaliser l'adaptation ciné de Dragon Ball.
Ouais, les boules quoi. Sinon,
c'est,
vite
c'est
fait.
C'est dans la fête foraine le 3 de décision.
Il me semble. Il me semble.
Le 2 était très bien.
Sinon, on en a pas parlé et c'est bien dommage. Achetez-le, ça vaut le coup. Ciné Hebdo. Ciné, c'est le dessinateur qui se fait virer de Charlie Hebdo par les intégristes, obscurantistes, éditorialistes. De Charlie
et
Hebdo.
Et sioniste.
Parce que moi, ça fait quelques années maintenant que j'achète plus Charlie Hebdo parce que bon, ça commence à me gaver sérieusement et que bon, à part le truc de ciné, bon, ça commence à être tout et n'importe quoi. Et là, ben, on retrouve un petit peu avec ce Ciné Hebdo, eh bien, l'essence de Charlie au départ, c'est-à-dire la bonne déconne, les trucs un petit peu provo et tout. Alors, on peut s'étonner quand même. Alors, il y a un petit peu rappel des anciens, tu vois, avec Jean-Pierre Bouxiou, avec Delphine de Ton et tout, c'est-à-dire quand même les mecs qui étaient là au début, dans les années 60, quoi, tu vois, ou fin des années 60, quoi. Mais retrouver également Christophe Alévèque, ainsi que Bruno Gassio, bon, on se dit oulala, ça peut peut-être ne pas être terrible, mais il y a également par contre Jackie Berroyer que j'aime bien quand il écrit. Il y a également Gudule, il y a également André Langanet qui faisait de super chroniques scientifiques dans Charlie Hebdo, mais qui s'est fait virer, on sait pas pourquoi, hein, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui étaient dans Charlie Hebdo et qui ont disparu, bon, on sait pas pourquoi, hein, qu'est-ce que tu veux, les staliniens sont partout, quoi. C'est comme ça. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Au niveau illustration, saluera le retour de J.O., notre J.O. national, hein, qui écrivait dans La Dépêche avant, hein. C'était lui qui faisait les trucs de La Dépêche.
Ouais, il s'est fait virer
et qui s'est fait virer, quoi.
Mais pas par Philippe Font.
Non, pas par Philippe Val. Non. Et il y a également du Malingret, donc également. Alors là, il y a plusieurs strips, quoi, de Benoît Delépine et Diego Aranega qui sont assez rigolos parce que ça nous raconte l'histoire du père et du fils Sarko. Là, c'est assez rigolo, quoi. Enfin bon, dans l'ensemble, ça se tient bien. Alors ils ont commencé avec que dalle, quoi, pratiquement. C'est le numéro 2, faut les soutenir un petit peu, quoi. Et puis bon, c'est intéressant. Il y a le même nombre de pages que dans Charlie. Mais c'est moins un tello rive gauche, quoi, tu vois, que j'ai envie de passer sur les plateaux de télé, quoi. Donc ça peut le faire un petit peu plus, quoi, sans problème. Ciné Hebdo, donc. En plus, c'est moins cher, hein, ça coûte que 2 euros, ça, quoi, tu vois.
J'étais arrivé en cours de batterie, donc à la volée, j'ai dû foutre la lime, et pour rien, voilà, ça m'apprendra. Ma foi, beaucoup de choses à rappeler, qu'il y a donc tout à l'heure, dans une trentaine de minutes, Bruno en dédicace aujourd'hui à la librairie Gibert, 3 rue du Thor, pour Commando Colonial Opération Héroclade, c'est chez Poisson Pilote d'Argo. Il y a le 16e explosion d'usine au pavillon sauvage Chaussas, c'est rue Jean Dagnaud. Et un lâcher massif de livres pour les bookcrossers, c'est à 16h au jardin Compense Caffarelli.
Nom d'un crevard, ma faudite, cher Thomas, nos auditeurs qu'ont-ils bien pu rater dans cette émission ?
Eh bien, c'était une émission spéciale télé-réalité et musique, avec en guest JB qui s'en est pris plein la gueule aujourd'hui, on peut le dire.
Arceau !
Une interview de Raph pour The Bazer, enregistrée à la Japan Expo. On a eu le courrier des auditeurs, lu à l'antenne, une BD d'une larve, un film avec des chanteurs masqués, deux polars sinoriens, une alerte Spice Girl, des Emmy Awards avec les nommés cette semaine, le retour d'It Crowd, les films avec des trois dedans et Ciné Hebdo.
Non d'une saison de la Starac, JB a manqué tout ça. Heureusement, il peut réécouter l'intégralité du supplément week-end en allant sur le site internet de l'émission. Pour cela, il va sur radioefmr.net ou sinon il va sur supplementweekend.tk ou sinon il cherche supplément week-end dans Google et il tombe dessus parce qu'on est tout en premier. Et il peut réécouter l'intégralité des émissions, voir les chroniques, voir... Non, il n'a pas le droit de poser une question, c'est les auditeurs qui ont le droit.
Tu peux le mettre là-dedans ?
Ouais, laisser plein de chroniques. Oui, ça rentre normalement.
Tout à fait.
Ah non,
si.
Non. Pourquoi Orange interdit de télécharger les fichiers de plus de 13 mégas.
Alors là, ça m'étonnerait très fort.
Ah, tu peux pas télécharger.
Je te montrerai.
Tu le peux, mais par Wi-Fi, mais tu peux pas partir du réseau 3G.
Non, je parle pas de ça. Je te parlerai à la maison via iTunes et ça marche très bien. Ça rentre.
Ah, oui, mais justement, tu peux pas dans ton téléphone, un peu partout dans la rue. Il faut le faire chez soi. C'est un petit peu pénible. Rien
tout à
fait. Foutre.
La semaine prochaine, l'équipe sera réduite de moitié. Vous aurez droit à Xavier et à JB demain.
Alias Adolf Hitler et.
Jean Moulin.
Non, pas Jean Moulin. Himmler, pardon, et non, c'est Hitler et attends, c'est qui ? Non, le dictateur de.
Je sais plus.
Ah merde, j'ai oublié là, avec la rencontre absolument fabuleuse et la scène du train. Voilà.
On en reparlera la semaine prochaine.
Voilà, ciao, bye bye. C'est des programmes sur Radio FMR. Vous retrouvez du sport de suite, puis à 15h, excusez-moi. C'est donc du reggae. Et ensuite, la semaine prochaine, ensuite à 17h, excusez-moi, vous retrouvez Booster FM qui sera avec vous jusqu'à 8h du matin. Ciao, bye bye, merci de votre écoute. See you.
Ciao.
Ciao.
Du sport dans quelques instants.